Merci bien, Jacob. Et merci à Lucia et à Marc Répon également pour cette session. Donc, le titre n'a pas changé, c'est une coexistence avec les non-humains de l'écologie chez Jean-Luc Nancy. Dans l'ouvrage cité par l'argument de cette rencontre, qui est la communauté affrontée, Jean-Luc Nancy se penche sur l'état du monde et repère les différentes lignes de brisure qui font que la communauté est affrontée à elle-même. D'une part, les nationalistes la font éclater. Deuxièmement, l'équivalent général des biens sur le marché mondial est en conflit avec les préférences nationales ou civilisationnelles. Et tout aussi bien, et c'est là une autre brisure et une issue aussi qui se dessine, la communauté humaine s'affronte à sa propre condition, à savoir la simple coexistence des êtres, en tant qu'ils ne font rien d'autre que se partager l'être, et donc aussi se partager le monde. Ce troisième front se situe donc entre l'exigence incontournable de coexister et tout ce qu'il excède en prétendant la fonder. Et cela que ce fondement de l'ordre de l'essence de l'homme, l'essence de la civilisation, de la nation, qui tout justifierait ces communautés restreintes que sont l'humanité, l'Occident, l'Europe, la France, etc. Ou alors de l'échange, excès de l'échange, de la circulation des biens et de l'argent. Méfiez-vous de toute assomption de la communauté, écrit alors Nancy. Celle-ci tend à s'excéder d'une manière contradictoire dans une suressence ou un suréchange et ainsi à faire œuvre de sa propre destruction. Dire que la communauté est désœuvrée, ce n'est encore que souligner cette autodestruction et non lui résister. Cette résistance doit s'appliquer bien plutôt sur toute version du commun, qui n'est pas à chaque fois retour à ce fond sans fondement, le partage de l'être entre les êtres, l'avec, pour citer Nancy dans ce texte, sec et neutre. Et l'enjeu, c'est bien d'éviter que se continue ce qu'il appelle alors l'œuvre de mort de la communauté, déployée dans une histoire qui n'est pas seulement celle d'une forme de civilisation, mais de la civilisation, engageant au-delà d'elle, je le cite à nouveau, l'histoire de l'homme et peut-être celle de la nature. Ici se déploie une affirmation extrêmement forte de la philosophie de Nancy, et qui concerne tout son corpus, comme elle nous concerne, d'une manière urgente, immédiate. Et voici cette affirmation, c'est que toute communauté est destructrice et autodestructrice si elle ne s'ouvre pas en permanence à sa condition d'être, qui est le partage de l'être par tous les êtres. Autrement dit, il faut qu'elle s'ouvre à la fois politiquement, éthiquement, philosophiquement, à d'autres humains, mais aussi d'autres êtres, vivants ou non. La pensée de Nancy est donc profondément écologique, expliquant à la fois ce qui détruit le monde et ce qui permettrait de le préserver. Mais étrangement, cette affirmation est toujours accompagnée d'une forme de réserve, comme ce peut-être la nature est concernée. Peut-être que l'histoire de l'homme est aussi celle de la nature. L'extension de la communauté au-delà de l'homme est une évidence, une urgence, et en même temps, il y a une forme de réserve de Nancy, comme s'il s'agissait d'une... Il y avait là même l'incertitude d'un peut-être. Je voudrais montrer aujourd'hui que cette incertitude n'a rien d'un défaut ou d'une faiblesse, que l'extension du commun au non-humain est cet espace où la pensée de Nancy, en fait, s'affronte à elle-même, où elle remet en jeu d'une manière extrêmement réaliste l'exigence de penser la coexistence au-delà de l'homme et le côté intraitable, c'est un terme de la communauté affrontée, de cette exigence. Prétendre humainement déployer le sens de ce qu'est la communauté avec les non-humains, c'est en fait pour Nancy un danger, un recul devant la tâche non négociable de l'humanité, un risque de mettre du lien entre les êtres là où il doit y avoir du partage. Bref, ce que je veux montrer, c'est que l'écologie est chez Nancy, dans tous les sens du mot, intraitable. Voyons ce qu'il en est de l'affrontement entre le commun et l'humain. Quand nous parlons de communauté, en général, en fait, très souvent, nous sous-entendons l'humain, la communauté humaine. De même que quand nous disons simplement « nous », pensons à nous humains. Ce sous-entendu est alors aussi bien évidemment un excès, puisque nous rajoutons à chacune de nos versions du commun la fausse évidence qu'il est de l'essence de l'homme de vivre en commun, de réaliser l'essence de la communauté, ou comme dirait Aristote, de dire le juste. Or, Nancy procède à l'inverse. Quand il parle de communauté humaine, il sous-entend la plupart du temps que le commun s'étend au non-humain. Ce sous-entendu devient explicite à chaque fois qu'il est question de ce que les êtres ont en commun, de ce qu'ils partagent, et c'est alors pas du tout un hasard si chez Nancy, le partage de l'être vient toujours en lieu et place de la justice. Autrement dit, l'homme peut bien se dire supérieur parce que lui seul dit le juste, mais l'humain, en tant qu'il se dépasse lui-même, dépasse cette supériorité et il ne dit plus que ce partage. Alors on pourrait certes penser que la communauté reste avant tout humaine chez Nancy, y compris chronologiquement, puisque c'est d'elle qu'il s'agit dans son premier article important sur ce thème, devenu un livre majeur, à savoir la communauté des œuvrés. Nancy y montre que la communauté est mortifère tant qu'elle se présente comme une œuvre commune, laquelle est en effet toujours une œuvre des morts que les vivants sont censés continuer, et donc fondamentalement une œuvre de mort. Or, ce savoir mortel, c'est aussi savoir que l'horizon de la mort est ce qui défait toute œuvre. De même qu'elle est ce qui nous singularise, chacun étant toujours confronté à sa propre mort. C'est donc aussi savoir que nous existons comme autant d'êtres singuliers, finis, que nous avons cela en commun et que l'essence n'est que le sens, n'est que dans cette existence, à la fois singulière et commune, en tant que nous nous décidons à lui donner sens. C'est la voie d'un communisme sans mythe, qui se veut déjà, évidemment, sans assomption communautaire, un thème constant chez Nancy, je ne vous l'apprends pas. On voit bien comment une telle perspective dépasse tout humanisme, qui se donne la tâche de réaliser une essence prédéfinie de l'homme. Simplement, il est question aussi que d'un dépassement de l'homme par l'homme, autrement dit, un mouvement qui ne concerne que lui, semble-t-il. Or, il y a quand même une phrase de Nancy, une seule phrase, dans la communauté des œuvrés, qui défait cette évidence, je la cite. « Il n'est pas certain que la communauté des singularités se limite à l'homme et exclut, par exemple, l'animal. » L'animal étant mis entre guillemets. Alors, oui, animal est entre guillemets, alors un lecteur de Derrida ou de Jean-Christophe Bailly, d'ailleurs, aurait tendance à expliquer les choses un peu rétrospectivement, ainsi. Hein. Le concept général d'animal serait encore trop humain pour parler adéquatement de formes de vie indéfiniment diverses. Hein. Certaines de ces formes pourraient alors bien avoir un certain savoir de la mort. Certains animaux pourraient même bien avoir une singularité. Et c'est alors à eux que la communauté s'étendrait. Ce qui expliquerait qu'animal devrait être mis entre guillemets pour que ce ne soit pas trop générique. Mais le par exemple que rajoute Nancy joue une fonction exactement inverse. Il veut nous dire qu'il y aurait éventuellement d'autres êtres que ces animaux singuliers et capables de deuil, de savoir de la mort aussi, qui pourraient être inclus dans la communauté. Mais lesquels, sachant que cette communauté est celle des mortels, se sachant elle. Donc ni des anges, des dieux qui ne sont pas mortels, ni des végétaux qui ne peuvent pas se savoir mortels. Donc, en fait, on ne voit pas d'autre exemple possible que certains animaux, et le par exemple de Nancy a donc une autre signification, celle d'une ouverture de la communauté au non-humain qui laisse celui-ci au seuil de la détermination et du concevable. La communauté perdrait en fait son double sens de communauté humaine et de communauté ouverte au non-humain si elle se focalisait sur l'inclusion de certains animaux, qu'ils soient domestiques, totémiques ou humanisés, comme ils le sont dans l'animisme. L'inclusion de l'animal mènerait inévitablement à son humanisation et donc à une surdétermination mythique de la communauté des hommes et des animaux. Il devient alors essentiel à la fois de parler des animaux sans en parler. Autrement dit, l'extension de la communauté est d'autant plus grande que son exemplification est intraitable. Il n'est alors même pas affirmable, mais seulement laissé. Elle n'est même pas affirmable, elle est laissée dans le doute, renforcée par ce qui est quand même une double négation, hein, je recite cette phrase en la contractant un peu. Il n'est pas certain que la communauté des singularités exclue, par exemple, l'animal. Il va de soi que si nous en restons ici, en animaux théoriques que nous sommes, nous en restons aussi sur notre faim. Mais tout le travail de Nancy vient justifier et déployer la phrase que nous venons de commenter. Déjà dans la communauté des œuvrés, ce qui est dit sur l'humain s'étend implicitement et virtuellement bien au-delà de lui. À tout instant, les singuliers partagent leurs limites et se partagent leurs limites, écrit Nancy. Et cela signifie déjà que la limitation ou la finitude ne dégage aucun propre ou aucune essence de l'homme, qu'elle s'étend bien au-delà d'une pensée ou d'un savoir de la finitude ou de sa propre mort. Elle n'est que celle de la limite entre un être et un autre être, un corps et un autre corps, si bien que tous les êtres humains et non humains partagent spatialement leurs limites, se touchent, s'écartent, les limites même empêchant toute fusion communautaire au-delà du simple toucher. L'extension de la communauté pourrait alors passer du statut de sous-entendu à celui de l'explicite, et même par excellence, hein, jusqu'à ensuite, ce qui définit le commun, c'est le partage de l'être, pas de l'humanité. Le seul privilège de l'humanité étant de dire ce partage qui le déborde. De ce point de vue-là, tout est dit ou écrit au début d'être singulier pluriel. Je cite Jean-Luc Nancy, nous sommes le sens, hein, c'est le titre en italique d'un des paragraphes du début, mais, dit-il, il n'y a pas de sens si le sens n'est pas partagé. Il est alors partagé entre les êtres, et cela veut dire jamais seulement entre les hommes. Les humains ont alors pour tâche, hein, je résume en substance, non seulement de se partager le sens, bref, de communiquer, mais de le partager avec des êtres non humains, autrement dit de mettre en langage et entre eux un sens qui émerge de la multiplicité indéfinie des êtres, autrement dit de communiquer par ce biais avec eux. La communication concerne, dit Nancy, toutes les choses, tous les étants, tous les existants, les passés, les avenirs, les vivants et les morts, les inanimés, les pierres, les plantes, les clous, les dieux et les hommes, c'est-à-dire ceux qui exposent comme tels le partage et la circulation, en disant nous, en se disant nous dans tous les sens possibles de cette expression, et en se disant nous pour la totalité de l'étant. Fin de citation. Et en effet, le langage ne parle pas que de l'homme, hein, je recite Nancy, il parle pour tous et de tous, il dit ce qu'il en est du monde, et également Nancy, il se perd en lui. Même le silence des êtres sans parole est donc dit quand nous parlons de ces êtres. Ainsi, nous sommes exposés dans l'être, comme le sont tous les autres êtres, avec la différence que nous sommes aussi, comme être parlant, exposant, autant qu'exposés. Alors, cela semble d'une certaine manière facile à dire, voilà, le langage peut parler d'autre chose que de l'homme. On y voit ici que la possibilité de parler des autres êtres, même simplement de prononcer pierre, plante, clou, ou de l'écrire. Mais le défi est bien plus grand, l'enjeu également, si l'on se souvient que l'on ne peut étendre le commun qu'à condition de l'étendre aux singularités non humaines, puisqu'il faut que la communauté soit celle des singularités. Or, comme l'a dit Nietzsche, repris par Rainer Schurmann, le simple nom commun, qui ne s'appelle pas non plus commun pour rien, ajoute déjà une généralité fantasmatique au phénomène. Tout langage est en fait trop commun, trop humain pour s'étendre à la singularité de tous les êtres. Personne n'est en mesure, en fait, de dire la singularité d'une pierre, d'une plante, ou encore moins d'un clou. Exemple que Nancy a choisi, hein, et qui est étrange, mais on y reviendra. C'est comme pour augmenter la difficulté, car le clou est depuis très longtemps un produit industriel standardisé. Mais il y a une singularité du clou, quand même. Bon. Maintenant, comment Nancy sort-il de cette difficulté ? En soulignant que le langage est toujours en mesure de faire ressortir l'étrangeté de ce qui se montre. Cela est dit d'abord des gens, dans être singulier pluriel. Les gens sont bizarres, c'est ce qu'on dit, hein, et c'est ce qu'on peut dire de mieux, car cela signifie que les gens ne sont pas généraux, hein, mais sont les autres qui sont comme moi, autant d'êtres irréductiblement singuliers. Autrement dit, les gens diffèrent entre eux, et donc aussi de tout genre. Et dès lors, cette singularisation n'est pas circonscrite au genre humain. On ne peut dire en fait les gens sont bizarres sans sous-entendre que cette bizarrerie est celle de tous les êtres, sans la communiquer à la totalité de l'étang, ou sans dire, nous dit Nancy, en même temps que la nature aussi est bizarre. Et nature se retrouve ici entre guillemets comme animal. Cela pour désamorcer un fantasme d'unité qui planerait sur la pluralité de ses existants. Ce qui est bizarre, c'est alors selon Nancy, et je le cite, la profusion déconcertante des espèces et celle de ces métamorphoses dans la technique, incluant de ce fait, de cette manière, les pierres, les plantes et les clous. Alors, la profusion déconcertante des espèces, mais il faut quand même toujours aller en même temps au-delà de l'espèce, hein, jusqu'à la singularité, et affirmer que nous pouvons communiquer d'une certaine manière avec telle pierre, telle plante, quand notre langage s'affronte directement à sa bizarrerie, hein, à son côté intraitable, de côté intraitable de la singularité de cet objet, inassimilable, irréductible à ce que nous cherchons à en dire, et donc perdant le langage au plus près de ce singulier. Avec la singularité et la bizarrerie, ce sont alors d'autres déterminations, privilégiant habituellement l'homme, qui sont saisies dans tous les êtres, donc pas simplement singularité, bizarrerie, mais aussi liberté. Évidemment, seul l'homme et quelques espèces animales supérieures sont capables de faire des choix, de se décider au sens habituel du terme, et l'homme seul peut énoncer des raisons, les raisons qui le font se décider. Mais le fond de la liberté est ailleurs, dans l'absence de raisons et de causes déterminantes qui enclenchent toute décision. Et cette absence de raison, c'est la condition du surgissement de tous les êtres. Donc, c'est une décision qui est déjà dans le surgissement de chaque être. La liberté se libère donc dans l'homme, mais c'est, et je cite Nancy, la liberté qui donne l'humanité et non l'inverse. Et il continue de manière explicite, La liberté se donne aussi bien comme la possibilité pour l'existant d'une deitas ou d'une animalitas que d'une humanitas, et rajoutant, voire d'une reitas. Donc, tous les êtres sont libres, même les choses. Cette libre apparition de l'être et des êtres fait donc aussi que ce n'est pas seulement l'essence, mais aussi l'existence qui se partage entre eux. On ne peut pas simplement penser que l'existence est le propre de l'humain, ou le propre d'un certain être privilégié qui s'appellerait Dasein, par exemple. Seul l'homme se pense à chaque fois comme un soi, découvrant alors que ce soi ne se fonde sur rien, qu'il est toujours à être, mais c'est aussi cette, je cite Nancy, cette non-essence et non-subsistance par soi qui fait le fond de l'être en soi. Ainsi, tout étant, même sans soi, existe comme soi hors de soi, tous les étants sont des existants. Il y a donc bien coexistence et communauté de tous les êtres. La tâche spécifique de l'homme devient alors celle de dire, de libérer, d'effectuer humainement cette coexistence, cette communauté, mais sans aucun des excès qui la refermerait sur elle-même et l'autodétruirait, donc toujours comme communauté avec d'autres. Un autre, dit Nancy, ce peut être ici un autre homme, un animal, une plante, une étoile, et la singularité de cet autre, ça peut être le visage d'un nouveau-né, je le cite, tel autre visage au hasard du trottoir, un insecte, un poisson vipère, un caillou, si l'on veut bien entendre qu'il ne s'agit pas de rendre équivalentes ces présences curieuses. Voilà, il ne s'agit pas de rendre équivalentes ces espèces, ni même ces individus. Parlons maintenant de la communauté, plus précisément de la communauté entre les formes d'existence et les formes de vie, avec une insistance sur la bizarrerie de l'animal. L'inéquivalence entre les formes d'existence fait qu'il n'est pas plus possible de se demander avec quelles formes privilégiées nous sommes censés communiquer, quelles sont celles qui ont le plus le droit à l'existence et quelles sont les plus singulières. Elle fait bien plutôt éclater la différence entre les règnes, minéral, végétal, animal, ou encore inanimé, vivant ou même technique. Pour mieux le comprendre, on peut se référer à ce que Nancy nous dit de la démocratie, et même si un texte comme Vérité de la démocratie ne semble pas envisager une seconde que cette dernière puisse être autre chose que, je cite Nancy, le souffle de l'homme. Il semble question que de communauté humaine. Alors la communauté, nous explique Nancy, ce n'est pas un régime politique, c'est l'affirmation de l'inéquivalence, de la différence infinie et incalculable entre les êtres finis. On ne peut pas se contenter de dire que les hommes ont la même valeur, ce qui serait encore les comparer pour les identifier, mais que chacun a par sa finitude même une valeur infinie différente de la valeur infinie d'un autre, ou comme dit Nancy, une valeur unique, incomparable, insubstituable. Ce n'est pas que tout se vaut, dit-il, mais que rien ne s'équivaut. Alors même si Nancy ne le fait pas, on peut tout à fait concevoir que le peuple de cette démocratie n'est pas seulement humain. Ça ne veut pas dire qu'une vache ou une pierre vaut autant qu'un humain, mais qu'ils sont tout simplement incomparables au sens où la pierre, ou la vache, ou le clou, ont singulièrement leur valeur incommensurable, qui est à la fois celle de leur existence et de l'existence en général. Ils partagent le monde avec nous, et ce monde a cette valeur dans ce partage. D'ailleurs, un monde où il n'y aurait que des humains, ce serait le paradis. Bon, sauf que dans le paradis, il faut normalement rajouter la Trinité et les anges, mais il manque quand même les animaux et les choses, j'ai l'impression. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, c'est aussi l'enfer, en l'absence de ces autres non-humains. On imagine mal aussi un art qui ne représenterait que des humains, des portraits qui seraient toujours sans paysage, sans bougies, sans oiseaux, sans petits chiens blancs ou rouges, sans mouches, etc. Nancy fait alors éclater les règnes comme Leibniz, comme un penseur du XVIIIe siècle, des Lumières, de la démocratie. Donc il fait également éclater la différence entre l'inanimé et l'animé. Ainsi, non seulement la liberté et l'existence ne sont pas réservées à l'homme, mais la vie non plus n'est pas réservée à ce que nous appelons vivant. Autrement dit, toute existence est aussi une vie. Et ce n'est pas qu'on comprend la vie seulement par défaut à partir de l'existence, comme Heidegger, mais au contraire qu'on ne saisit la vie que comme existence, et réciproquement. C'est-à-dire que vie et existence sont équivalents pour tous les êtres inéquivalents, ou sont l'être partagé entre une multiplicité indéfinie d'êtres équivalents. C'est bien ce qui se révèle explicitement dans ce qui me semble être le plus beau texte de Nancy sur la vie, et qui en fait est inscrite dans un article qui est en fait dédié à une personne qui participe aujourd'hui, qui est Marcia Cavalcante-Schubar. C'est un texte qui s'appelle Viva Marcia, dans un mélange pour Marcia, Ad Marciam. Et c'est un texte qui en fait fait éclater les genres comme les reines, puisqu'il est à la fois poétique et philosophique. Être, c'est naître, écrit Nancy. Précisant que la naissance, c'est venu au monde. Voilà, toute la naissance est venue au monde, et de ce point de vue-là, être, c'est toujours naître. Être, c'est naître d'une archivie, explique-t-il, qui n'est rien d'autre que la dissolution du principe, une vie, je le cite, qui ne commence pas en ce monde, mais de laquelle le monde vient. Ou, je le cite encore, survenant à rien, de rien, mais survenant au beau milieu de rien, expulsion hors de rien. Il faut en effet qu'une vie soit déjà présente comme étrangère à elle-même dans tout l'univers. Il faut ce qu'il appelle une vie en amont de la vie, ce que les romantiques nommaient Urleben, pour que la vie puisse s'engendrer elle-même, s'affirmer comme extension, dissémination, profusion, prolifération. Ainsi, je le cite, c'est une vie chaque fois qui vit selon sa forme de vie, hein, et on peut rajouter, y compris dans la forme singulière d'un être dit inanimé. Autrement dit, tout est animé. Et Nancy cite alors Leibniz, il y a un monde de créatures, de vivants, d'animaux, d'entéléki, d'âmes dans la moindre partie de la matière. Faire reposer ainsi la singularité sur la naissance. Être, c'est naître. Comme Anna Arendt le fait, offre infiniment plus d'extension à la communauté que de la définir, comme c'était encore le cas dans la communauté des œuvrés, par la mortalité. Ce qui ne permettait que d'inclure, si on la définit par la mentalité, peut-être l'animal. Il en découle également que l'âme ne s'entend plus comme substance éternelle, comme chez Leibniz, mais bien comme survenue et comme échappée. L'âme, c'est le mouvement hors de soi qui fait que chaque être se dérobe de toute saisie. Elle est toujours sa bizarrerie. C'est la bizarrerie du corps, l'âme, en fait. Je cite sur ce point l'extrait d'un entretien avec Jean-Luc Nancy. Donc, je le cite. « Les corps sont l'existence effective des âmes ou des intériorités selon leurs extériorités qui les exposent précisément comme intériorité ou plus exactement comme supposition d'intériorité. Je vois un homme, je me rapporte à lui comme à un sujet que j'approche par son corps, son allure, son aspect, sa voix, ses gestes, toutes choses qui ne sont rien d'autre que son existence même, mais il ou elle restera toujours indéfiniment supposé, partira toujours plus loin que ce que j'approche. Je vois un animal, une plante même, cette autre approche de corps vivant me renvoie à une supposition à la fois différente, puisque je n'aurai pas d'échange de sens avec le supposé sujet, et tout de même convergente à l'infini, car il se dérobera tout autant. Et ce serait vrai donc aussi d'un être inanimé. Il en découle que tous les êtres ne sont pas seulement dans le monde, mais au monde, que mortels ou non, ils existent bien en ce sens. Nancy, comme Derrida, comme d'autres, hein, depuis surtout, se mesure alors au fameux texte de Heidegger qui entend redonner au règne de l'être un sens existentiel en affirmant que la pierre est sans monde, l'animal pauvre en monde, etc. Donc que le lézard ne touche pas la pierre comme nous touchons, que seul l'humain est authentiquement au monde. Ce que dit Nancy à propos de ce texte, c'est que le simple être parmi, être entre, être contre suffit pour être au monde, ce qui fait, dit-il, que la pierre et le lézard sont aussi dans le circuit du sens. Ainsi, et je résume en substance, la pierre pèse sur la surface, elle touche à sa manière et singulièrement le sol même, même si elle ne le peut pas. Elle est au contact, dit Nancy. On pourrait dire aussi, elle est au sol. Voilà. Elle est vraiment au sol. Son écart vis-à-vis du sol fait qu'elle est au sol et qu'il y a monde déjà ouvrant sur une passibilité du sens qui est plus qu'une simple possibilité du sens. Je cite Nancy. Le sens touche à la pierre, il s'y heurte même, et c'est ce que nous faisons ici. Et tout cela serait vrai même s'il n'y avait pas d'homme pour le dire, d'ailleurs. Il n'y a pas d'homme sans monde, s'espaçant entre êtres inhumains, mais la réciproque n'est pas valide, il peut tout à fait y avoir un monde sans l'homme. Et le montrer ainsi, c'est dévoiler une possibilité ontologique, qui est aussi une éventualité, hein, du point de vue de notre devenir technique, qu'il puisse y avoir un monde débarrassé, en quelque sorte, de l'homme. Mais avant d'en venir à cette écologie politique, je signale que dans la démonstration que j'ai suivie à l'instant, le lézard a disparu en cours de route. Nancy insiste finalement sur la pierre. Hein. Il n'insiste pas du tout sur les arbres. Et de fait, il y a très peu d'animaux chez Nancy. Peu d'attention aux singularités animales. Et à la rigueur, on se demande bien pourquoi. Quand il est question de textes qui peuvent être philosophiques, poétiques, sur des singularités, ça peut être par exemple un lac, hein, mais ce ne sera pas un animal. Il y a une exception, mais je n'aurai pas le temps de la citer, on peut y revenir. Derrida s'est posé la question dans un entretien de 2002. Alors il demande, est-ce que dans ton monde, là, il y a des animaux? Alors réponse de Nancy, non, pas du tout. Mais si je ne fais aucune place aux animaux, j'en fais aux vivants. Et puis il répond, mais il se rebiffe aussi, il griffe un peu. J'allais même te dire, donc c'est Nancy qui parle, j'allais même te dire pour commencer que lorsque tu parles de l'animal, je me dis souvent deux choses. Je suis un peu soupçonneux d'abord. Je me dis, qu'est-ce qui lui prend là? Qu'est-ce que c'est que... Est-ce que c'est pas un peu trop? Et puis je me dis, il y a plus urgent. Surtout, oui, je me suis dit ça quelquefois. Et puis d'autre part, je me dis, tu instaures une loi selon laquelle tu pourrais être cruel envers moi, mais pas envers ton chat. Alors là, la discussion monte en tension. Derrida, ça, c'est le soupçon ou l'accusation que des gens comme Luc Ferry adressent à tous ceux qui veulent s'intéresser aux animaux pour les animaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Luc Ferry. On en a eu d'autres entre-temps, mais... Bon. Au fond, il préférait l'animal à l'homme, les nazis aussi, etc., etc. Ça, c'est l'argument habituel de cet humanisme-là, j'ai répondu à Yap. Alors Jean-Luc Nancy, du coup, faisant baisser la tension. Là-dessus, je me dis complètement empirique, on ne peut pas tout faire. Alors Jacques s'occupe des animaux, très bien, chacun son troupeau, les vaches seront bien gardées. Alors laisse-moi les hommes. Et Derrida, débrouille-toi. Et 2 ans après, Jean-Luc Nancy reprend la discussion à Strasbourg. Et c'est lui, cette fois-ci, qui enclenche. Plusieurs fois, tu insistes en faveur des animaux et contre l'animal sans monde, dit-il à Derrida. Tu insistes sur le fait qu'il y a des animaux qui font le deuil, etc. Mais en faisant cela, il semble tout de même que tu redétermines une échelle. Tu as bien désigné, par exemple, que la fourmi n'est pas la même chose que le chimpanzé. Derrida répond, et on peut s'y attendre, hein, c'est pas une échelle, c'est une différence. Alors, Nancy, une différence. Mais ce que je voulais te demander au fond, c'est si en estompant la différence entre l'homme et le reste du vivant, tu n'en reconduis pas une pour autant d'échelle. Et Derrida, j'ai voulu mettre en question la limite linéaire et oppositionnelle entre l'homme et l'animal pour au contraire introduire une plus grande différenciation. Alors la réticence de Nancy, elle est un peu étonnante. Tous les textes que j'ai cités précèdent ces entretiens et nous avons vu que Nancy étendait la communauté aux animaux, aux pierres, aux clous sans difficulté. Et pourtant, il s'inquiète ici du fait que le discours sur les animaux réintroduise une hiérarchie. Il justifie pas vraiment cette peur, hein, mais il confie les animaux à Derrida, préférant donc s'en tenir aux hommes, c'est ce qu'il dit. Hein. Ce n'est pas une inconséquence, et ce n'est pas qu'il ne peut pas se justifier, c'est bien plutôt l'indice d'une grande stabilité dans sa pensée, puisque finalement, ce qui est dit là correspond à la phrase qu'on trouvait dans la communauté des œuvrés, hein, on peut interpréter de la même manière, hein, qui étendait très prudemment la communauté à l'animal. Le risque qui préoccupe en permanence Nancy est bien celui d'une hiérarchie qui privilégierait le lien homme-animaux et par là même certains animaux au détriment de l'écart horizontal entre tous les êtres inéquivalents. Et de ce point de vue-là, assez proche de Deleuze, quand il parle des animaux, préfère des animaux bien lointains, hein, qu'on appelle inférieurs, qui ne sont pas du tout aimables, comme les poux, hein, de façon à éviter toute hiérarchisation et toute intimité homme-animal, comme dit Deleuze, qui n'aime pas les animaux qui se frottent, comme les chats. Bon. Les animaux sont trop proches des hommes, ils risquent toujours d'arrêter le mouvement d'extension de la communauté. Cette interprétation est confirmée par une question posée à Nancy, par Nancy à Derrida dans un entretien de 89. Nancy se limite à poser des questions, donc je ne cite que la question. Dès lors que tu ne veux pas limiter une éventuelle subjectivité à l'homme, pourquoi te limiter à l'animal? Donc la réticence de Nancy me semble être un affrontement existentiel très important pour la pensée écologique, un affrontement en quelque sorte interne à la pensée de Nancy, mais qui est très important dans toute la pensée écologique. Celle-ci doit se défaire de toute préférence pour certains vivants, qu'ont les chasseurs d'ailleurs aussi, ils adorent les chevreuils et les chasseurs. Bon. Celle-ci doit se défaire de toute préférence pour certains vivants, de tout totémisme, pour accéder à l'inéquivalence infinie qui fonde vraiment un droit à l'existence de tous les êtres du monde. à l'exigence de laisser être le monde dans sa pluralité infinie ou sa démocratie infinie. Nous allons voir, ce sera le dernier mouvement, il est court, que c'est exactement pour la même raison que Nancy se refuse à condamner la technique et qu'il fait entrer la technique dans les exigences de ce que l'on peut nommer une écologie radicale. Donc passant à cette économie politique, la communauté s'affronte elle-même, disions-nous au début de cet exposé. Nous disions avec Nancy, évidemment. Mais il semble que nous n'ayons pas encore tenu compte d'une de ces lignes de brisure, celle de la relation de la communauté avec la technique. Mais à vrai dire, ce n'est pas la technique qui est ici en cause. Tant que celle-ci visait à accomplir l'œuvre de la nature, à l'imiter pour la compléter, tant qu'elle se donnait pour tâche de façonner des produits finis, en fait, elle ne brisait rien. Il faut bien plutôt dire que c'est la technique moderne, ou plutôt la modernité comme tournant de la technique, qui a donné à celle-ci une puissance d'autant plus illimitée et impossible à maîtriser qu'elle n'a pas d'autre fin qu'elle-même. Alors, la technique accomplit non la nature, mais elle-même, son autodéveloppement, prenant alors toute la charge de ce qu'avait été la pensée occidentale, celle d'une réalisation de l'homme par l'homme, mais sous une forme inhumaine. C'est la forme inhumaine de cette autofinalité, forme inhumaine et détachée de l'homme. Nancy dit dans un de ses derniers textes, on ne peut pas dissocier l'Occident de ce désir forcené d'autoréalisation qui est précisément en train d'asphyxier le monde. La technique actuelle est donc la mise en œuvre destructrice pour tous les êtres, pour le monde même, la mise en œuvre inhumaine de l'humanisme même, de l'homme comme sur-essence, s'auto-affirmant ou affirmant son autonomie. Je cite Nancy, « Cette autonomie réalise bel et bien la fin, la visée et l'accomplissement de la philosophie, c'est-à-dire de l'Occident, c'est-à-dire de l'autoréalisation, qui passe en même temps par la misère, le malheur et la destruction de milliards d'individus dont on se demande qui les considère comme des hommes, pour ne rien dire des désastres écologiques ajoutés au malheur de tous. » Et on le voit dans cette phrase qui préoccupe avant tout Nancy, c'est l'effet déshumanisant de la technique, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, pour ne rien dire des désastres écologiques qui sont là, mais encore d'une manière intraitable ou comme par prétérition. Cela ne signifie pas, loin de là, que Nancy n'a rien à dire ou ne dit jamais rien des désastres écologiques, mais seulement qu'il ne les sépare pas d'un désastre, à la fois humain et inhumain, d'une catastrophe qui concerne l'homme et s'étend à tous les êtres. Et c'est bien ce qui est développé dans cet autre texte, qui est l'équivalence des catastrophes. Je le cite, « Il n'y a plus de catastrophe naturelle, il n'y a qu'une catastrophe civilisationnelle qui se propage à toute occasion. » Les désastres écologiques se mêlent donc inextricablement des causes physiques et humaines. Ils sont des désastres en tant qu'ils concernent d'une manière tout aussi inextricable des êtres humains et non humains. On pourrait dire que c'est la version chez Nancy de ce que l'on nomme l'anthropocène, mais on se trompera. Il n'y a pas d'époque de l'homme, car ce qui s'avère inextricable a toujours pour fond le partage indéfini de l'être entre les hommes et les autres êtres, autrement dit le fait que le monde n'est pas humain. L'anthropocène n'est donc que le côté immonde du monde, ce qui l'excède, éradiquant l'inéquivalence entre les êtres au profit d'une équivalence qui fait que les catastrophes se valent et valent pour tous les êtres. Et c'est cette équivalence qui est catastrophique, comme le dit d'ailleurs Nancy. On comprend dès lors que Nancy n'est pas insisté sur la technique quand il soulignait les fronts qui déchiraient la communauté. Ce n'est pas qu'elle est absente, ce n'est pas un front nouveau, mais la convergence de deux assomptions de la communauté, par sur-essence, ce qui fait que l'homme tend à dominer le monde, et par sur-échange, ce qui fait que la différence se perd dans l'équivalence. La technique est même ce qui transforme la sur-essence, l'homme, en sur-échange concernant tous les êtres, en sens qu'ils sont tous exploitables et marchandables. J'ai presque terminé. Et pourtant, il ne faut pas voir là une simple dénonciation de la technique moderne. Ce nom commun reste, dit Nancy, une idée vague qui ne rend pas compte de son partage réel en une multiplicité technique inéquivalente entrant entre elles dans des modes de connexion multiples. C'est dans une pensée finie. Il oppose faussement l'artificiel à une nature, le nom commun, un technique, oppose faussement l'artificiel à une nature autonome, immanente, alors que la sortie de la nature est déjà impliquée dans la sortie de chaque être hors de soi, dans l'existence de chaque être, si bien que l'on peut parler d'une technicité essentielle de l'existence. En ce sens, je cite Nancy, « La dénonciation de la technique est le geste le plus banal et le plus vain de l'âge technique. » Il est aussi celui qui masque ce que la technique nous révèle de l'existence et réciproquement. C'est pourquoi également les techniques, en même temps qu'elles asphyxient et détruisent le monde, le rendent aussi multiple, désassemblent, désorientent, résistent à toute assomption communautaire, n'appartenant à aucune nation, et n'appartenant même plus vraiment à l'homme. Je cite Nancy, « On sait bien aujourd'hui qu'un écologisme bien compris détermine de nouvelles avancées techniques. » Mais il faut comprendre plus profondément, dit-il, qu'il faut habiter la technique. Et je le cite encore, « Habiter la technique ou l'accueillir, ce ne serait rien d'autre qu'habiter et accueillir la finitude du sens. » On comprend dès lors que Nancy est cité les clous parmi les êtres auxquels s'étend la communauté. Le partage des êtres concerne bien tous les êtres, y compris les objets techniques, et cela jusque dans leur singularité. Il n'y a pas d'écologie sans considération de la singularité du clou, inéquivalente à celle du fleur ou d'une fleur ou d'un animal. Il n'y a donc aucun naturalisme chez Nancy, et surtout, selon lui, aucun naturalisme qui s'opposerait à d'autres ontologies, qui serait en relation plus authentique avec d'autres êtres que l'homme. Mais seulement un partage de l'être modifié, entamé par une histoire de l'humain qui inclut peut-être la nature, c'est-à-dire pas comme nature. Et je le cite, « Nous avons de fait transformé la nature et nous ne pouvons plus parler d'elle. Nous devons arriver à penser une totalité dans laquelle ne vaut plus la distinction entre nature et technique et dans laquelle en même temps ne vaut plus un rapport de ce monde à un quelconque autre monde. » Dans ce contexte, le choix individuel de renoncer aux techniques pour revenir au plus proche de la nature n'a aucune signification. Nous n'avons pas non plus à espérer quelques transitions écologiques guidées par nos souverains, écologistes sans lettres, la souveraineté n'étant rien d'autre qu'un reste d'autoréalisation de l'homme par l'homme, alors que l'autoréalisation est en fait déjà devenue technique, qu'elle est devenue automation. Et c'est ainsi que la fameuse transition écologique est équivalente à chaque fois à l'absence de transition, n'offrant qu'un champ parmi d'autres d'investissement des capitaux, à la fois équivalent et quantitativement inférieur aux investissements dans le charbon et le pétrole. Nous n'avons pas à attendre ou accomplir de transition, nous sommes plutôt dans une mutation, dont le principal sens est qu'elle nous dégage de notre maîtrise, y compris technique. Celle-ci peut mener au pire, la fin de l'humanité, la continuation d'une vie sans l'homme ou d'un monde sans vie, Nancy le dit. Pourquoi cela ne serait-il pas admissible? La question peut être posée. Mais la même mutation peut aussi nous faire muter nous-mêmes. L'accompagner activement, c'est alors résister à toute suressance et tout suréchange, c'est faire muter notre manière de vivre ou d'exister au profit d'une démocratie impliquant, je cite Nancy, même s'il n'utilise pas le mot démocratie, un être avec des objets, voire des sujets techniques, tout autant qu'avec toutes les autres espèces des temps supposés naturels. Il y a là la virtualité, explique-t-il, d'un arrêt de l'automation, et même de tout « auto », ce préfixe, au profit d'un « halo » qui est plus que tout « hétéro », au profit, dit-il, d'une « allonomie », d'une communauté entre êtres, tous indéfiniment autres. Mes dernières phrases. Cette politique écologique, sans aucune hiérarchie, ni assomption dans un principe, ou même une institution communautaire, peut se nommer écologie anarchique autant qu'allonomie. Il paraît que notre président craignait le désordre à l'Assemblée s'il n'obtenait pas la majorité absolue aux législatives, mais ce qu'il nous faut pour Nancy, c'est alors bien plutôt l'anarchie écologiste hors de l'Assemblée. Je vous remercie. Je pense que j'ai aussi été un petit peu anarchique.